le journal de Tom Managi.
Bonjour, le hockey sur glace sera à la fête au printemps prochain dans la région. La patinoire à Porrentruy accueillera le championnat du monde masculin des moins de 18 ans. Une compétition internationale qui se tiendra en avril prochain et qui représentera un défi logistique pour la ville. Ce vendredi 1er juillet est un jour particulier pour de nombreux Suisses. Le mariage pour toutes et tous entre en vigueur dès aujourd'hui. La Suisse rejoint officiellement la trentaine de pays qui ont déjà introduit cette loi. Du changement au CCRD, le Centre culturel régional de Delémont a entamé une réflexion sur son programme après l'avènement du Théâtre du Jura. Il se concentrera désormais surtout sur la jeunesse, les galeries ainsi que la musique. La grisaille devrait laisser place à quelques rayons de soleil. L'après-midi pourrait même être assez ensoleillé. Le mercure atteindra 20 degrés au meilleur de la journée. L'ambiance qui va se réchauffer un peu ce week-end, il fera beau demain, mais la pluie est attendue dimanche. Porrentruy accueillera l'année prochaine le championnat du monde U18 de hockey sur glace. Le voile a été officiellement levé ce matin. La Raiffeisen Arena a été retenue par la Fédération Suisse de hockey sur glace comme site hôte avec Bâle. Outre ces deux villes, Bienne et Langnau étaient également candidates. Le tournoi se déroulera en avril 2023. Plus de 250 joueurs, membres d'encadrement et arbitres sont attendus dans la région, sans compter l'entourage des équipes et le public qui représente plusieurs milliers de personnes. L'attribution du mondial U18 à Porrentruy est une occasion extraordinaire de faire rayonner l'image du Jura, selon le ministre jurassien en charge des sports, Martial Courtais.
C'est extraordinaire parce que sur notre territoire cantonal, c'est quand même chose extrêmement rare d'avoir des compétitions internationales et mondiales. Nous avons eu, bien sûr, au niveau du vélo trial, la course d'orientation, même une étape du Tour de France. Mais ici, on est véritablement encore dans une autre dimension, avec des équipes parmi les meilleurs joueurs du monde et les futurs grands de demain dans le canton du Jura, avec toute une infrastructure, avec des retombées inhérentes à cela. Donc vraiment, là, c'est une étape extrêmement intéressante pour le rayonnement du canton du Jura. Ça a été et là, je repense aux commissions parlementaires où on a eu affaire à certains sceptiques, et je comprends qu'il y avait du scepticisme, mais on a toujours dit qu'on espérait bien sûr un écrin pour le HC Ajoie, mais aussi pour des compétitions nationales et internationales, et c'est ce qui est en train de se profiler. Ça montre aussi que le Jura peut relever ce type de défi, c'est symboliquement très fort.
Le gouvernement versera d'ailleurs 250 000 francs de soutien prélevés sur le fonds d'utilité publique du gouvernement. L'organisation de ce championnat du monde U18 est aussi un défi, notamment en termes d'hébergement. Le maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, espère évidemment des retombées pour sa ville qui devra s'appuyer sur le reste du canton pour trouver toutes les ressources nécessaires.
Des retombées espérées, c'est vrai qu'on avait pris des engagements que ce lieu allait accueillir des manifestations d'envergure. On ne pouvait pas espérer un tel événement aussi rapidement. C'est vrai que derrière le sport, il y a tout le domaine économique, les retombées indirectes et bien évidemment un cercle vertueux où l'économie va en tirer des bénéfices, le tourisme va en tirer des bénéfices, le sport également et indirectement bien évidemment les collectivités. Donc on ne peut être que très réjoui des perspectives qui se présentent. Oui, on va compter en fait sur l'ensemble du canton pour pouvoir accueillir, mais ça stimule aussi la volonté de développer l'hébergement ici à Porrentruy. Ça ne peut être qu'un encouragement à aller encore plus loin afin de pouvoir justement accueillir des groupes, ce qui est un peu une difficulté à l'heure actuelle, mais je crois que cet événement va être un déclencheur encore de nouveautés. J'ai confiance dans l'accueil touristique de la région.
Et Porrentruy accueillera donc un groupe de 5 équipes. Les deux groupes sont constitués mais pas encore attribués à l'un ou l'autre des sites. La Raiffeisen Arena devrait accueillir à minima une douzaine de matchs. Le mois de juillet rime bien sûr avec vacances et tourisme dans la région. À quoi doit s'attendre le tourisme jurassien pour cet été 2022? Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme, était l'invité de la matinale. Les envies d'évasion lointaine après la pandémie de coronavirus et la fermeture des frontières se font sentir au niveau régional. Guillaume Lachat explique qui seront les touristes présents dans le Jura cet été.
Alors ce sera encore une fois une très grande majorité de Suisses. On compte beaucoup sur les Suisses alémaniques qui viennent déjà en nombre en général dans le canton du Jura. On a aussi les romands du côté de Lausanne, Genève. Les gens qui sont autour de l'arc lémanique viennent volontiers, de plus en plus volontiers dans le canton du Jura, donc on compte sur eux.
Pour cet été 2022, qu'est-ce qui marche fort? Qu'est-ce qui attire les touristes dans la région?
Alors on a, d'un point de vue des activités, vraiment un grand boom du vélo électrique. Ça, vraiment, les gens pratiquent énormément de vélo électrique dans notre canton. Ça va être même une tendance sur le très long terme. Et puis d'un côté des hébergements, il y aura comme chaque année un peu des gagnants et des perdants. Peut-être que l'hôtellerie a réussi à compenser en partie la perte des tourismes de loisirs individuels par les groupes qui sont revenus, les manifestations qui sont de nouveau là, et puis un tourisme d'affaires qui est renaissant en tout cas jusqu'au mois de juin. Et puis peut-être pour la première fois, on aura une baisse de nuitées dans le domaine des chambres d'hôtes et appartements de vacances qui alors ont cartonné toutes ces dernières années, mais qui devraient voir là leurs chiffres stabilisés.
Guillaume Lachat qui répondait à Marceline Michon dans la matinale. Retrouvez l'entretien complet sur rfj.ch. Nous sommes le vendredi 1er juillet, jour particulier pour nombre de personnes en Suisse. Depuis ce matin, la loi sur le mariage pour toutes et tous est entrée en vigueur. Le commentaire d'Adrien Juvet.
Depuis ce matin, figurez-vous qu'en Suisse, deux femmes ou deux hommes peuvent se dire oui, peuvent se marier. Cette minorité accède aux mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Les amoureuses et les amoureux auront un même accès au mariage. C'est la fin d'une différenciation à l'état civil, c'est la fin d'une discrimination, une discrimination enterrée par le peuple suisse et les cantons, cantons qui ont voté de manière unanime afin d'élever l'amour au-delà des jugements, afin que chacun puisse vivre comme bon lui semble, sans que l'État ne vienne dire de manière arbitraire qui a le droit de vivre ensemble et de s'aimer.
Et pourtant la fin de cette discrimination n'était pas gagnée d'avance, Adrien.
Et non, ce n'était pas gagné d'avance. Rappelez-vous les tensions que provoquait le pavillon sur lequel tout le monde pouvait symboliquement se marier à Yverdon lors d'Expo CO2. Souvenez-vous aussi des messages d'ouverture délivrés par François Sylvan au moment de la votation sur le Pax et les réactions que cela provoquait. Et puis c'est une période que je n'ai pas vécue, mais au travers de reportages, de documentaires, aussi d'un film suisse, Der Kreis, j'ai pu percevoir à quel point depuis les années 50, notamment dans le canton de Zurich, le chemin de croix a été long et ardu pour celles et ceux qui ont su faire bouger les mentalités. Alors aujourd'hui n'est cependant pas une ligne d'arrivée, comprenez-moi bien, le marathon se poursuit pour la tolérance, pour accepter nos voisins tels qu'ils sont, pour vivre ensemble dans le respect de chacun. Aujourd'hui, ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais il me tenait à cœur de rendre hommage et de remercier toutes ces personnes et tous ces politiciens, ces politiciennes qui se sont mobilisés, qui se sont battus pour que cet après-midi, je puisse dire oui à la personne que j'aime.
Et dans la région, des couples de même sexe vont transformer leur partenariat enregistré ou tout simplement se dire oui au civil pour la première fois. C'est le cas de Christophe Chenia, membre du comité de Juraguet, l'association LGBTIG+, de l'arc jurassien. Le Delémontain va se marier avec son compagnon Christian Aldi au mois d'octobre. Il nous explique pourquoi ils ont pris la décision de sauter le pas, Christophe Chenia.
On a longtemps hésité, on s'est déjà battu à l'époque pour le partenariat enregistré. Dans le but, c'était finalement de pouvoir avoir à peu près les mêmes droits que tout un chacun. Et puis, ces dernières années, on a beaucoup réfléchi dans le sens où c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Et puis, à un moment donné, c'est toute la réflexion de construire ensemble quelque chose. On construit un projet de vie, on vit ensemble, on a plein de choses en commun. Et à un moment donné, c'est l'accès au mariage pour toutes et tous nous permet finalement de protéger l'autre, protéger son conjoint dans les aléas de la vie, en fait.
Aujourd'hui, en tant que premier jour où c'est vraiment possible, ça représente quoi pour vous ?
Pour moi, ce n'est pas à titre individuel, c'est plutôt à titre de la société. Je trouve que la société, finalement, a énormément évolué, a une présence de construire ensemble. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, quoi. Moi qui me bats pour les droits des personnes LGBTIQ+, depuis une vingtaine d'années, je trouve qu'arriver à cette période-là charnière, c'est vraiment génial, quoi.
Christophe Chenia qui répondait au téléphone de Lydiane Guenat. La bataille pour ou contre AVS21 est lancée. Les citoyens suisses trancheront dans les urnes le 25 septembre. Ce matin à Berne, les syndicats et les partis de gauche ont fait aboutir le référendum avec plus de 150 000 signatures. Ils ont présenté leurs arguments. La réforme AVS21, disent-ils, se fait notamment sur le dos des femmes avec le relèvement de l'âge de la retraite de 64 à 65 ans. Un chiffre est brandi. En moyenne, les femmes perdront 26 000 francs de rente. La réforme ne tend-elle pas vers l'égalité homme-femme avec la retraite pour tous à 65 ans? C'est de l'égalité à l'envers, rétorque la conseillère nationale verte Léonore Porchet, vice-présidente du syndicat Travail Suisse.
Parce que ce qui est dit, c'est qu'on doit mettre à l'égalité de l'âge de la retraite. Mais la Suisse, c'est de loin, très loin d'être exemplaire en matière d'égalité, avec encore de très fortes discriminations, les inégalités salariales qui augmentent en 2022, avec toujours les femmes qui assument une part beaucoup plus importante du travail non salarié, avec une femme sur six qui est dans la pauvreté au moment de la retraite. Et dire que l'AVS21, c'est un pas vers l'égalité, c'est vraiment une escroquerie.
Et pour le président de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, le programme AVS 21 peut se résumer en trois points. Payer plus avec 4 dixièmes de TVA supplémentaire. parlementaire Travailler plus et baisser les rentes. Il y voit même un complot de la droite et des milieux des assurances qui veulent réduire l'impact de l'AVS et de la LPP au profit du troisième pilier.
Ce n'est pas un complot puisque celui-là est tout à fait transparent. Quand vous votez une augmentation des déductions possibles pour le troisième pilier jusqu'à 15 000 francs, ce que à peine 10% de la population peut se payer et qui coûte environ 500 à 600 millions de francs, et puis qu'en même temps vous baissez les retraites des femmes et en fait les prestations de l'AVS, on voit très bien qu'il y a en fait une volonté non pas d'assainir financièrement l'AVS, parce que l'argent semble là pour les baisses d'impôts pour les riches, mais en fait de déplacer les parts de marché de l'assurance sociale vers le troisième pilier qui évidemment permet de distribuer des marges lucratives et des bénéfices à l'industrie de la finance.
Et pour mémoire, le Conseil fédéral et une majorité du Parlement soutiennent AVS 21. Lundi prochain, des femmes de droite viendront expliquer pourquoi il faut adopter cette réforme. De gros orages ont frappé la France voisine. Un violent orage a balayé hier après-midi le site du Festival de musique des Eurockéennes à Belfort. Les organisateurs ont dû se résoudre à annuler les concerts prévus hier, mais aussi ce soir. Un fort coup de vent a entraîné la chute d'une structure en forme de chapiteau, faisant 7 blessés, dont un grave. Les dégâts sont significatifs selon les organisateurs, qui ne savent pas si le festival pourra se poursuivre à partir de samedi. Le Centre culturel régional de Delémont a entamé sa mue. Après l'avènement du Théâtre du Jura et le passage de la pandémie de Covid-19, le CCRD a mené une large réflexion pour redéfinir son activité. L'institution va désormais se concentrer sur la jeunesse, les galeries et la musique. Elle entend surtout se rapprocher des acteurs culturels et des collectivités de la région. Le président du CCRD, Olivier Tchop.
L'avenir du Centre culturel, c'est se repositionner sur son district. C'est se recentrer sur certaines activités, donc on abandonne forcément les arts de la scène, qui sont maintenant le monopole du Théâtre du Jura, et on essaye d'impliquer davantage les acteurs culturels de la région et de proposer des prestations au service de la population du district.
Notamment dans les fêtes du village, c'est peut-être la nouveauté principale.
Alors c'est la première démarche exploratoire qu'on va mener, de donner une dimension un peu plus socioculturelle à ces fêtes de village, d'entente avec les comités d'organisation de ces fêtes. On espère que le bilan sera positif et qu'il y en aura d'autres dans le futur.
C'est en quelque sorte un nouveau rôle de pont que va jouer le CCRD entre les différents acteurs culturel et aussi les communes, certaines institutions.
Exactement, donc on retourne aux fondamentaux d'un centre culturel, un rôle de pont et de facilitateur. On a le soutien du canton donc, dans ce projet de transformation. On a un comité qui est derrière et qui nous appuie dans ces démarches. Mais ça reste une aventure.
Olivier Tchop qui répondait à Raphaël Chalvera a noté encore que le CCRD ne gère plus la salle Saint-Georges de Delémont, d'où sa volonté de se rapprocher des communes du district.
RFJ, les 12h28.
Sport. Les cyclistes de la Grande Boucle vont donner leur premier coup de pédale cet après-midi. Le Tour de France s'élance de Copenhague avec 3 premiers jours de course au Danemark. L'arrivée sera jugée le 24 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. D'ici là, le peloton fera aussi un passage en Suisse avec une arrivée à Lausanne dans 8 jours, le samedi 9 juillet, et un départ d'Aigle le lendemain. Le tracé de cette 109e édition semble taillé pour un grimpeur, comme l'explique notre consultant cycliste, l'ancien professionnel Christophe Moreau.
Des difficultés bien disséminées tout au long du parcours, du côté évidemment des Alpes et des Pyrénées. Une arrivée à l'Alpe d'Huez et toujours des arrivées au sommet très très difficiles. Et c'est clair que pour Tadej Pogacar, le vainqueur sortant, ce sera encore un parcours sélectif. Ça reste le Tour de France, mais avec quelques petits pièges au début. On parle du Danemark, les bordures, les pavés de Roubaix la première semaine avant d'arriver du côté de la planche des Belles-Filles le 8 juillet pour une première arrivée au sommet.
Vous avez lâché le nom du grand favori de cette 109e édition, le Slovène Tadej Pogacar. Il y a un peu l'épouvantail aussi. L'équipe Jumbo-Visma, c'est un duel entre le Slovène et la Jumbo-Visma qu'on doit voir. Est-ce qu'on peut imaginer un autre scénario?
Je crois que c'est un scénario essentiel. Je pense qu'il sera primordial sportivement. Après, on l'a dit, il y aura quelques pièges sur cette première semaine qu'il faudra affronter. Plus l'invité surprise de ce Covid avec des coureurs positifs qui pourraient quitter le Tour. Bref, des conditions un peu particulières cette année. Mais néanmoins, on peut parler de ce duel, ce gros team Jumbo-Visma avec Vingegaard et bien sûr Primoz Roglic et Pogacar qui sera le vainqueur sortant et pour une troisième passe sur ce Tour de France.
Christophe Moreau qui répondait à Mathieu Schaffner. Retrouvez un entretien plus large à propos du Tour de France sur notre site internet. Le grand départ sera donc donné à 16h à Copenhague avec un contre-la-montre de 13,2 km dans les rues de la capitale danoise. Cette première étape pourrait permettre aux spécialistes suisses du chrono Stefan Küng et Stefan Bisseger de s'emparer du maillot jaune de leader, même s'ils n'ont pas connu la préparation idéale avec des contaminations au Covid-19. Stefan Küng.
Je crois qu'il y a des autres favoris qui ont eu une meilleure préparation que moi, si je peux dire comme ça, parce que je suis bien sorti du Tour de Suisse Et au lieu de me préparer comme il faut, ouais, j'étais en train de lutter contre une petite infection avec le Covid, mais ouais, on verra bien qu'est-ce que ça donne, parce que des fois, si on se met trop de pression et tout, ça peut aussi être contre-productif. Donc là, je peux partir libéré, je sais qu'est-ce qu'il faut pour gagner un tel chrono, donc ouais, je vais tout donner pour faire le maximum.
Un des propos recueillis par la RTS, la 109e édition du Tour de France cycliste commence donc aujourd'hui à Copenhague. Premier départ du contre-la-montre à 16h au Danemark. Retour dans la région avec un duel de mal classés en Liga d'Inline Hockey. La lanterne rouge du SHC Ajoie se rend chez l'avant-dernier Bien Skater 90 à 19h45. Une victoire permettrait aux Jurassiens de doubler leur adversaire au classement et de se rapprocher à 4 points de la barre. De son côté, le SHC Rosmaison organise ce week-end la Coupe d'Europe de moins de 19 ans en forme Biwi. Cette compétition mettra aux prises 10 équipes provenant de 4 pays, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Suisse. Les juniors de Rosmaison, champions de Suisse 2021, et ceux du SHC Ajoie seront notamment en lice pour le titre. Début des matchs demain à 8h.
Merci Thomas Nagy. On passe à la suite. Il y aura la météo, quelques petites annonces. Ensuite, ce sera ça. Tom Gregory pour la suite en musique avec son titre Fingertips. Et d'ici 13h, on vous parlera aussi de vos vacances à Malte.
La météo avec le nouveau Grand Land d'Opel, le SUV 4x4 et ses 300 chevaux à découvrir au Garage Res à Delémont.
Les éclaircies vont arriver, nous dit-on, au fil des heures, avec un temps assez ensoleillé en pleine cet après-midi. Par contre, des nuages qui seront un peu plus présents sur les franches montagnes, mais le ciel devrait se dégager en toute région pour ce soir. Les températures sont en nette baisse par rapport à hier, avec des maxima de 16 degrés à 1000 mètres et 20 à basse altitude. Demain, c'est une très belle journée bien ensoleillée en toute région qui est prévue selon Météo News. Il y aura quelques cumulus l'après-midi et le mercure grimpera entre 23 et 28 degrés. Et dimanche, c'est aussi un temps bien ensoleillé qui est annoncé avec le développement de cumulus et des orages isolés qui ne sont pas exclus en fin de journée et en soirée. Il fera entre 27 et 31 degrés au meilleur de la journée de dimanche.
La météo avec le Garage Res à Delémont, la bonne adresse pour découvrir le nouvel Opel Grandland plug-in hybride 4x4 et ses 300 chevaux.